Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bienvenue à vous tous et toutes dans ce troisième épisode de la saison 2 de Explore, où on essaye d'aborder cette thématique de la foi chrétienne, de ses contours, où je suis là avec Sophie. Salut Sophie.
Coucou.
Et toujours aussi avec Dimitri.
Salut.
Voilà, les trois, on s'accompagne durant cette douzaine d'épisodes. Normalement, c'est un peu ça qu'on vise autour de la foi chrétienne. Lors des deux premiers épisodes, on s'est penché sur nos parcours de foi, et on est parti dans un tourbillon, je ne m'attendais pas à ça, mais sur qu'est-ce que ça change en fait la foi chrétienne, qu'est-ce que ça change d'être chrétien. Et là maintenant, une thématique qui va conclure une première étape de notre parcours. J'ai appelé ça « Quand la foi s'encouble » dans mes notes. C'est ce qui est du registre du trébuchement dans le parcours de foi. C'est quand on tombe, quand ça grince, quand c'est peut-être des fois pas aussi satisfaisant qu'on le voudrait, ou alors ça pourrait même aussi prendre d'autres couleurs, comme aborder cette thématique du mal, de l'obscurité qui a été évoquée dans les derniers épisodes aussi. Mais c'est Dimitri qui va nous introduire avec la chronique de cet épisode, et tu nous parleras du grand mot, attention, péché.
Oui, merci. Merci Elio pour cette introduction. Oui, le péché, c'est vraiment un terme qu'on aimerait pouvoir changer.
Mais tu vois, je voulais pas l'utiliser.
Vrai que c'est une des premières choses qu'on entend souvent, c'est au fond, mais est-ce que c'est pas un terme qui est justement suranné et, on entend tout de suite les sept péchés capitaux.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est très très vite aussi, hein, là encore, renvoyé au champ de la moralisation du christianisme. Et au fond, le problème est plus grave, on va dire, que de savoir.
Tu veux dire que c'est sérieux, le péché, quoi.
Voilà, c'est une chose plus sérieuse. Okay. Et c'est même une chose plus sérieuse que la faute. C'est pour ça que on doit, malgré tout, malgré les difficultés qu'on a à vivre avec ce terme, je pense qu'il faut le garder.
Okay, okay.
Puisqu'en fait, il opère la distinction avec justement la notion de faute. Puisqu'en fait, le péché n'est pas uniquement la faute, le fait que nous ayons fauté ou que nous ayons commis un crime. Qui au fond quelque chose qui
on a transgressé une règle, hein, c'est ça,
voilà,
la faute.
Voilà, la faute est liée à la transgression et au mal commis ou au mal subi aussi. Alors que le péché dans le christianisme, en tout cas, porte une dimension quasi constitutive en fait de notre condition. Voilà, tout le monde connaît le récit de la chute, l'occurrence du péché originel.
On t'en dit deux mots quand même vite fait. Allez.
Pour faire court, il y avait un fruit défendu.
Ouais, fallait pas toucher.
Qu'il fallait pas toucher. Et en fait, Ève va braver l'interdit sous l'influence du serpent pour manger le fruit et obtenir la connaissance du bien et du mal. Les conséquences seront désastreuses, puisqu'en fait, ils vont découvrir qu'ils sont vulnérables et nus et vont être exclus du paradis. De ce paradis terrestre qui était l'Éden, ils vont être exclus, et c'est ça peut-être ce qui est toujours assez intéressant de rappeler, parce qu'en fait Dieu a peur qu'ils mangent encore de l'autre fruit de l'immortalité, hein.
Ouais.
Il y a un deuxième arbre auquel ils n'ont pas droit,
après coup en tout cas.
Et là du coup, si Adam et Ève avaient encore mangé du fruit de l'immortalité, ils seraient vraiment des dieux. C'était ce que craignait en tout cas
Dieu apparemment.
cet événement marque dans la narration chrétienne une forme de dimension indépassable de notre humanité. C'est vraiment un péché dont on hérite, avec lequel on ne peut pas négocier.
Non, t'es humain, t'es pécheur, quoi.
T'es humain, t'es pécheur. Ça ne voudrait pas dire qu'on nous aurons une propension au mal. C'est pas tant la possibilité que nous avons d'être mauvais qui a été ouverte, que la possibilité que nous n'aimions pas faire le bien.
Okay.
Parce qu'en fait, la propension au mal, Voilà, elle avait l'air d'être déjà là, puisqu'en fait, ils ont su braver l'interdit, quelque part. Peut-être qu'ils n'étaient pas en capacité de savoir que c'était un mal.
Donc, d'ailleurs, a priori, avant de m'en manger, ils n'en avaient aucune idée.
Exactement. Voilà, ouais. Et en fait, je pense que ce récit qui a une haute dimension symbolique nous rappelle cette dimension de la résistance, quelque part, à quelque chose qui serait bien pour nous, et que néanmoins nous n'allons pas forcément suivre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été porté dans la tradition chrétienne de manière assez récurrente. Notamment, enfin, on va le retrouver, voilà, je vais pas refaire l'ensemble des références, mais on le retrouve très fortement chez Paul.
L'apôtre Paul.
Chez l'apôtre Paul.
Plein de textes dans la Bible qui sont de Paul.
Voilà, on en a parlé aussi un tout petit peu dans le podcast précédent. C'est qu'en fait, nous avons quelque chose pour pallier, en fait, l'incapacité héritée du péché originel qui est ne serait-ce que la révélation divine dans la loi.
Rien que ça.
On a quand même des palliatifs, on va dire, pour ce...
En principe, on a une marche à suivre.
Pour surmonter, il y avait quand même quelque chose qui a été offert pour surmonter ce drame initial, qui était ne serait-ce que la loi mosaïque, qui était censée suppléer, en fait, ces manquements. Et en fait, Paul nous dévoile de manière assez... de manière quasi anthropologique, comme si c'était vraiment quelque chose d'assez naturel, dans le sens où nous sommes capables de suivre la loi morale, enfin la loi, je dis la loi morale par extension, mais en l'occurrence la loi de Moïse. Il n'y a rien de difficile, en fait, à suivre cette loi. Si vous la lisez, alors elle n'est pas agréable. Mais elle n'est pas difficile. C'est pas difficile, fondamentalement, de ne pas commettre un meurtre, par exemple. Je sais pas, mais on n'est pas tous en situation de résister absolument. Alors, si on se situe du point de vue de l'humanité, bien sûr, ça paraît une loi difficile, mais si on est sur le plan individuel, au fond, il n'y a rien de plus facile de respecter cette loi. Et ce que va montrer Paul, mais ensuite par la suite les réformateurs aussi, quelque part, pour faire court, c'est que le problème, c'est que nous n'aimons pas la loi. Nous ne sommes pas réconciliés avec elle. Il manque quelque chose.
On n'aime pas le fait que Dieu, à un moment, ait dit « Tu ne mangeras pas de cet arbre-là ».
Oui, il y a quelque chose dans la limite imposée par Dieu. Ouais, tu as raison, le fait qu'il y ait déjà ce premier interdit qui sera dépassé. Mais aussi, effectivement, dans le fait que la loi nous est difficile. La loi, même cette loi qui paraît facile, nous soit difficile, paradoxalement. Pointe sur une incapacité constitutive de réaliser le bien qui est pourtant devant mon nez quelque part, qui est là, qui est à ma portée. C'est pour ça qu'il y a cette thématisation chez Paul de la chair qui résiste, en fait, qui n'adhère pas pleinement à la réalisation de la loi. Donc en fait, on n'est pas avec le péché dans la qualification d'une faute. Mais de quelque chose qui manque, d'un appel. Nous sommes appelés à plus, à nous réaliser quelque part, nous réaliser dans les limites qui sont imposées, en tout cas exigées de Dieu. Et en fait, nous ne nous contentons pas des limites, de ces limites-là, nous voilà au-delà. Et c'est vécu comme une restriction, comme une forme de vexation. Donc en fait, le péché, c'est ça qui est intéressant avec la notion de péché. Encore une fois, c'est pas tant que nous soyons constitutivement fautifs, mais que nous soyons pas assez à l'écoute de nos limites, à l'écoute de notre condition, que nous voulions peut-être toujours plus, et qu'en fait, nous ne soyons pas réconciliés avec ce qui nous est indiqué. Je pense que c'est pour ça que la dimension christologique ici est importante, puisqu'en fait Paul nous rappelle que seul le Christ, en fait, a été à même de dépasser ce paradoxe d'une loi que je ne peux pas auquel je peux adhérer mais que je ne peux pas aimer et qu'au fond je ne réalise pas pleinement, puisqu'en fait le sacrifice lui-même de Dieu dans la figure, dans son fils, dans la figure de Jésus, me montre que la loi a mené à la mort même de Dieu, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, la loi n'a mené, dans son pur respect, sans être habitée, n'a mené qu'à une forme de destruction, qu'à une sorte d'absence.
Donc ce que Dieu lui-même a donné, hein, d'ailleurs.
Ce que Dieu lui-même a donné, paradoxalement, n'était pas encore entier dans cette loi-là. Alors, bien sûr, on est dans une perspective chrétienne. Je pense que la dimension profonde de ce sacrifice, c'est de nous indiquer que Dieu lui-même n'a pas été à la hauteur de cette loi, quelque part. Et qu'en fait, il lui fallait l'incarner dans l'amour de cette offre. C'est pour ça que Jésus n'est pas une abolition de la loi, mais sa plus pleine réalisation, justement parce qu'elle ne peut pas se réaliser autrement que dans la chair, et non pas justement comme une pure abstraction, comme une limite, comme une pure limite on va dire réglementaire.
Ouais, c'est juste, c'est l'interdit pur, enfin c'est écrit là comme ça. Ça, oui. c'est t'as qu'à, oui, suivre ça et c'est tout.
Oui.
Ça c'est l'abstrait, c'est l'absolu.
Oui.
Et puis après il y a ok, mais comment je donne forme à ça dans mon vécu concret, quoi.
Oui, exactement, exactement. Mais je pense que c'est la dimension, voilà, qui, le dépassement de la loi. C'est pas simplement voilà la loi ou le Christ. C'est vraiment que la loi n'a pas pu se manifester pleinement autrement que dans ce geste paradoxal. C'est une forme de dépassement et de contradiction de la loi et sa pleine réalisation.
Ce qui fait que tu parlais, je pense qu'on va gentiment conclure,
oui,
le temps de chronique. On arrive gentiment. Je sais pas si tu voulais encore.
Oui, oui, tout à fait. Je crois que j'ai dit.
Mais
ce que
tu parlais
je
du
dire.
Désamour pour la loi, hein, et qu'au fond il fallait apprendre à l'aimer. Et oui. Du coup, c'est dans ce paradoxe-là que, oui, ça se joue.
Oui, parce qu'en fait, la loi seule a mené à la crucifixion quelque, ouais, part. Pour aller plus loin, hein, que dans la logique, ouais, théologique classique, ouais, et qu'il fallait pas moins que cette incarnation-là sacrificielle pour nous la restituer dans ce qu'elle a d'humain, cette loi. Et qu'en fait, cette loi, je ne peux l'aimer qu'à l'aune de... effectivement, c'est ce que tu disais, qu'à l'aune d'une incarnation, d'une humanisation. C'est ce que nous offre Dieu, en fait, c'est de pouvoir habiter la loi et du coup de ne pas être rigoriste avec cette loi. Parce qu'en fait, la loi, puisque je ne l'aime pas, je ne suis jamais appelé à la réaliser pleinement. Elle va, même si elle est facile, ben en fait, je ne la fais pas. Et il n'y a que dans le Christ que je puisse me réconcilier avec une loi que je ne suis pas à même de réaliser, et en même temps d'accepter le péché que constitue la non-réalisation de la loi.
Je pensais qu'on allait dans un épisode qui nous mène justement au contact de l'obscurité. Et je vois très bien qu'en fait, dès qu'on va d'un côté, on va de l'autre. Tout d'un coup, on refinit dans une promesse de réconciliation, quoi. Ah là là, ils sont pas stables, ces réformés, c'est terrible. Bien, merci beaucoup Dimitri pour cette impulsion autour du péché, du coup, comme thématique qui nous fait rentrer sur une discussion sur ce qui fait trébucher, ce qui grince dans nos vies chrétiennes et dans nos vies de foi. On est un peu sur le mode de la réaction et de la discussion à ce que tu nous as proposé, Dimitri. Je sais pas si tu veux te lancer, Sophie.
Ouais, peut-être revenir à un niveau un peu moins élevé. Je suis admirative de tout ça, mais voilà, moi je retiens ce que tu disais un petit peu au début avec cette... Puis ce qu'on disait aussi dans l'épisode précédent, il y a une notion d'adéquation avec la réalité. Pour moi, le péché, oui, c'est un terme polémique, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très facile quand on lit les nouvelles, quand on s'informe sur le monde, quand on vit au travail, dans les relations humaine, cette, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qui est des fois brisé, Et pour moi, le péché, ça aide à garder cette posture de réalisme aussi, de lucidité par rapport au monde. Mmh. C'est pour ça que les gens qui disent « Ah, mais la posture chrétienne, elle essaye de fuir la réalité. »
Ok, ouais.
Voilà. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne manière de conceptualiser le monde. Au contraire, c'est très réaliste.
Mmh.
Et en même temps, il y a ce que tu disais aussi, il y a toute une voie de réconciliation qui est proposée. Il y a tout il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire, il y a un élan de ce côté-là. Et peut-être plus pratiquement parlant, moi, ça m'aide à accepter justement la question des limites. Ça me libère aussi d'une certaine forme de culpabilité. On a beaucoup dit le christianisme, c'est culpabilisant. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Pour moi, au niveau individuel, c'est parce que Dieu m'a pardonné que je peux des fois me pardonner les choses que j'ai de la peine à me pardonner à moi-même. Et pour moi, là, il y a quelque chose de fort. Et ça permet, en fait, finalement, de prendre en compte toutes les dimensions de l'être humain. Donc, il y a aussi un aspect de résistance et quelque chose se rappelle de la loi. Moi, j'ai trouvé ça super que tu dises que la, en fait, elle est hyper simple, la loi. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent.
On pourrait lire les 10 commandements.
Enfin, ouais, voilà, ouais, exactement. Ouais. Les 10 commandements, il y a rien de particulièrement révoltant. Enfin, sauf peut-être le fait que, avec cette logique, on dirait que c'est que les hommes qui sont concernés par, par les choses, notamment la question du désir. Mais bon, tout ça pour dire que il y a rien de mirobolant dans la loi et c'est un peu quelque chose qu'on essaye de respecter tous les jours,
ouais,
a priori.
Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence.
Voilà. Mais voilà, ça dit quelque chose de cette incapacité de l'être humain à, et là on touche à la question du péché pour moi avec cette fameuse phrase de Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas et
le mal que je ne veux pas, je le fais.
Exactement.
Quelque chose du style.
Ouais, c'est je sais plus comment c'est tourné exactement, mais c'est exactement ça finalement. Il y a quelque chose en nous qui fait que souvent on rate la cible. Mmh. Où on se fait déborder par nos émotions, où on est pris dans des systèmes aussi. Pour moi, le péché, c'est pas que individuel, c'est aussi collectif.
Mmh.
Et là, il y a une dimension de résistance à prendre en compte aussi, de comment répondre collectivement au fait que le plus souvent, les systèmes humains, ils ont tendance à foirer. Et là, à mon avis, il y a quelque chose aussi de très intéressant à regarder le monde de manière lucide.
Je vais rebondir à la suite de ce que tu viens de dire. Et Dimitri, je suis très reconnaissant de cet échange parce que tout d'un coup, tu m'as créé une association qui n'était pas du tout évidente pour moi avec le péché. Alors, mon point de départ, c'est effectivement l'association péché, bien faire, mal faire. C'est ce qu'on dit de la moralisation, hein. En gros, ça divise le monde dans il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de mauvais. Et il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Et en fait, là, tu as pointé du doigt complètement autre chose, qui est du registre de la déception. En fait, donc comme tu as décrit ça, c'est comme si, intrinsèquement, si on dit que l'être humain est pécheur, c'est pas l'être humain est intrinsèquement enclin au mal et intrinsèquement mauvais. Non, mais il y a constamment... Nous, en tout cas, dans notre regard, c'est constamment décevant. On traîne avec l'existence humaine quelque chose lors d'une expérience de déception constante. Je retrouve ça aussi dans justement ce que tu viens juste de dire, des systèmes foireux. Ben oui, merde, ça marche pas, quoi. Ça devrait marcher, mais ça ne marche pas, nom de sort. Et en fait, La dimension, s'il y a quelque chose du registre d'une dimension pécheresse de l'être humain, c'est cette espèce de constat, de déception, mais qui, en fait, est partagé par tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui dans cette histoire, n'est pas déçu, en fait. Il n'y a personne qui est au-dessus de la mêlée, entre guillemets. C'est un peu ça, même pas Dieu au bout du compte est au-dessus de la mêlée sur cette question-là, si ce n'est que, et c'est là le message à la fin en lien avec Christ, c'est que face à la déception, lui, il ne s'arrête pas. Il continue. Enfin, ou en tout cas, il n'en reste pas juste à... Ah bon, laisse tomber, quoi. Non, justement, il fait pas ça. Il y a quelque chose qui persévère dans le geste de lien, de relation, de... Bon, ben ok, il voulait cette pomme, bon, ben on va quand même trouver un moyen qu'il vive dans ce monde maintenant qui est complètement différent du fait qu'il a fait ce qu'il a fait, quoi. Ok, c'est décevant, ok, bon, ben le monde n'est pas comme on imaginait qu'il devrait être, mais bon, on va trouver un moyen de... En fait, de pas lâcher l'affaire, au bout du compte. Et de le faire d'une manière, et c'est peut-être ça la question du don de la loi, c'est ok, bon, ben la loi, elle est donnée comme un cadeau pour en fait, mais c'est super. Là, j'ai un truc, ça va nous aider à continuer. On va pouvoir goûter à quelque chose de bon à partir de ça, et ça se retourne. Ça, c'est la thèse. Même ça, en fait, on l'utilise pour faire du mal, quoi, pour se faire du mal. Et au bout du compte, ben, la révélation, c'est ben. Enfin. On rentre dans quelque chose l'envers de la déception, c'est cette vulnérabilité en fait, que totale, qui est dévoilée du coup. C'est hyper décevant et ça me met à nu. En fait, je suis pas au top du top. Bon, je dis ça et je pense qu'on peut pas complètement évacuer la dimension de culpabilité du coup, mais c'est autre chose, c'est pas que de la culpabilité, c'est autre chose, ça peut prendre plein d'angles la déception. Ça peut venir de plein d'endroits. Ça peut même être d'ailleurs complètement légitime d'être déçu. C'est pas juste une déception du « Ah, j'aurais pu mieux faire ». C'est non, ça aurait dû. C'est pas « J'aurais pu mieux faire » ou « Ils auraient dû mieux faire, c'est quand même dommage ». C'est non, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Point. La déception, je peux être déçu de quelque chose que je vois qui se passe. Je peux être déçu de quelque chose que j'ai fait. Enfin, je trouve que ça donne une portée beaucoup plus large, en fait, à cette idée d'une dimension pécheresse dans le monde et dans la vie humaine que moi je trouve très éclairante et qui m'aide beaucoup pour m'approprier ce terme qui est difficile pour moi. Voilà une association que je fais et qui me fait me dire qu'à partir de là, je suis capable de peut-être parler un peu plus de péché à l'avenir. Mmh.
Ouais. Ouais, et puis on a pas mal parlé d'un terme que moi j'ai pas utilisé par contre, mais qui est important, c'est la culpabilité. Vous l'avez utilisé les deux. Mmh. Et puis, mais je pense que en fait la culpabilité, on veut vite l'évacuer. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel on a envie de se justifier très vite en disant oui, mais au fond le christianisme c'est pas une affaire de culpabilité. On va arrêter tout ça. Et puis alors qu'au fond, si on faisait la réflexion inverse et qu'on disait de manière peut-être contre-intuitive, on se disait, mais non, c'est hyper important de se sentir coupable, quelque part. Enfin.
Ouais, il faut encore que tu me le vendes, hein, le truc, là.
Voilà, non, mais, encore, non, mais c'est hyper important. La culpabilité, c'est important dans le sens où c'est pas seulement lié, on va dire, au péché comme tel. C'est la conscience que je suis responsable, en fait, que je réponds de quelque chose. Et qu'en fait, que cette réponse a été incomplète. Et c'est pour ça que la culpabilité peut être infinie. Mmh. Si je n'étais coupable que de ce dont je pouvais m'accuser devant un tribunal, les choses seraient circonscrites, et puis il aurait fait une faute, et cette faute, je devrais en répondre de manière aussi, là aussi, circonscrite. Mais le péché renvoie à une sorte de culpabilité infinie, et je peux me sentir coupable... dans les moindres aspects de l'existence.
Là où il n'y a pas de raison d'être coupable, justement.
Alors qu'il n'y aurait pas de raison d'être coupable. Et puis en même temps, cette culpabilité qui peut être infinie, c'est-à-dire pas infinie dans le sens du côté abyssal de la culpabilité, mais qui peut se projeter un petit peu partout. Le côté infini, c'est la micro-projection dans tous les événements de la vie, elle qui peut s'infiltrer partout, exactement. Se sentir coupable parce qu'on n'a pas ouvert tout de suite au chat, par exemple. se sentir coupable parce que j'ai oublié de dire bonjour à Sophie au synode, par exemple. On peut diluer, en fait, ces micro-culpabilités partout. Mmh. Et c'est intéressant de les interroger, en fait.
Elles sont là, quoi, au fond.
Elles sont là, au fond. Et pourquoi elles sont là? Pourquoi je me sens responsable de tel ou tel aspect? Donc en fait, il y a une dimension, voilà, qui est psychologique, là aussi, qui est interrogée, qui peut rejoindre dans une certaine mesure justement l'aspect plus théologique et religieux, spirituel. comment je gère mes multiples culpabilités sans qu'elles soient douloureuses, en fait. C'est peut-être aussi ça qui soit l'enjeu. Nous avons des micro-responsabilités, et comment je les assume, comment je m'en défais. Mais là, j'ai l'impression que parfois, très souvent, on est dans une espèce d'évacuation de la culpabilité à bon compte. Ça veut dire qu'en fait, j'ai fait ça, mais j'ai pas envie de me sentir coupable, allez hop, quoi. Qu'au fond, on veut régler son compte à la culpabilité.
Bon, ou dans l'autre sens, on empêche les personnes qui, en fait, ont besoin de rester à un endroit, de se dire, ok, mais là, il y a un truc qui me travaille, en fait.
Exact.
Et de tout de suite l'évacuer, parce que non, mais sens-toi pas coupable. Enfin,
je pense que ça va dans les deux sens.
C'était pas du tout dans ce sens-là que j'essayais de dire les choses.
Oui, je sais.
Probablement parce que... justement, je pense que personnellement, enfin, c'est quand même quelque chose où effectivement on se sent responsable de tout un tas d'enjeux et d'autant plus dans une perspective chrétienne finalement. Il y a une part où j'ai l'impression que on se sent aussi responsable du monde, on se sent responsable d'en prendre soin et souvent les chrétiens sont quand même des gens qui sont engagés d'une manière ou d'une autre.
Une des toutes premières capsules qu'on a entendues, elle est clairement dans le sens aussi de dire que la foi m'amène à m'engager en fait, et dans le sens de l'amour, de la vérité et de la justice, d'agir en conséquence de ça, quoi.
Exactement. Et en même temps, pour moi, il y a aussi un aspect libérateur important. Alors oui, dans un processus, à mon avis, la culpabilité, elle a du sens. D'ailleurs, en accompagnement spirituel d'urgence, c'est un des trucs qu'on essaye de prévenir la culpabilité, mais quelque part en s'appuyant sur la culpabilité.
Donc on parle de situations, tout d'un coup, il y a une mort dramatique.
Exactement.
Un accident.
Voilà. Ouais. On essaye d'explorer est-ce que ça aurait été possible de faire autrement. Et en fait, ce qui va te permettre de ne pas te sentir coupable... C'est de réaliser qu'en fait, non. mais tu t'appuies toujours sur ce sentiment-là. Et ce sentiment de dire, mais en fait, c'est bien de se sentir responsable de son entourage. C'est bien de se dire qu'on aurait voulu pouvoir agir. Tout ça, c'est quelque chose de bon sur lequel on peut s'appuyer. Ouais. Parce que ça dit aussi quelque chose de notre élan premier. C'était toi qui disais au début de nos discussions, peut-être, je ne sais plus dans quel épisode, mais aussi ce... ça procède de quelque chose de positif. Il y a un élan positif de dire oui, tout le monde essaye de faire la justice, de faire du mieux qu'il peut, de gérer les situations. La plupart des gens qui commettent des actions qu'on pourrait considérer comme mauvaises, le plus souvent, ils le font, ou je le fais moi dans ma vie, en pensant faire le bien, en pensant solutionner une situation, en pensant remédier à un problème, etc. Donc il y a quand même cet aspect-là. Et moi, pour ça, j'aime quand même bien... je vais revenir à mon dada avec Jacques Ellul, qui a conceptualisé... Enfin, je ne sais plus, il dit à un moment donné... au fond, il faudrait agir en tant que chrétien dans le monde en faisant comme si tout dépendait de nous, alors que rien, fondamentalement, ne dépend de nous.
C'est une prière, hein, ça, je crois, d'ailleurs. Enfin, bref, oui.
Voilà. Et il le dit comme ça. Je suis pas sûre qu'on pourrait, universaliser ça à ce point, mais il y a quand même cet enjeu de dire, ok, on a une responsabilité vis-à-vis du monde. Elle existe, elle est là, et on a quelque chose à faire. Et en même temps, on pourrait se dire, on parlait de micro-responsabilité, on est un peu microscopique à l'échelle du monde. En lui-même, encore plus à l'échelle de Dieu, etc. Et il y a aussi cette capacité à dire, oui, mais ça me libère. Et c'est pour ça que moi, je parlerai quand même avec cette notion de péché aussi, de libération. Quelque part, je peux m'en remettre à Dieu. Je peux déposer ça devant Dieu, que j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire, etc. Ce qui justifie pas un immobilisme. Et moi, je pense que là, il y a quelque chose aussi, un défi de notre temps, j'ai envie de dire, où une grande partie des problèmes, c'est, à mon avis, un grand enjeu, c'est le déni, c'est la paralysie, c'est mais en fait ça sert à rien de faire quoi que ce soit parce que je suis pris dans des forces trop grandes pour moi, parce que bah, tu parlais de l'écologie à l'épisode précédent, ben ça sert à quoi de faire un effort parce que de toute façon je suis personne, ou voilà. Et là, à mon avis, il y a une réponse possible chrétienne de dire bah si, il faut que je peux m'emparer de ma vie avec un élan qui dit bah j'ai envie d'avoir la place pour cette responsabilité là. Je suis humain, je suis responsable.
Et j'abandonne pas ça quoi.
C'est ça. Et moi je le formule ça c'est quelque chose depuis très longtemps. Hein, bien, pas avant d'avoir la foi, mais dès les débuts où je sentais que j'avais la foi, un des élans que j'avais, c'était de me dire « Ah mais, en fait, j'ai envie de terminer ma vie en ayant l'impression que je peux dire à Dieu que j'ai fait de mon mieux. » Et de pouvoir dire « Ok, je peux répondre devant Dieu de ma vie, de mes actions. » De ce que j'ai fait, tout en sachant que probablement qu'il y aura plein de trucs qui se seront cassés la gueule. Moi, quand je dis ça, je pense souvent à la figure du roi Arthur dans Camelot, quand il fait sa tentative de suicide.
Ouais.
Et voilà. Et il dit à un moment donné, mais moi, j'aimerais pas qu'on dise que j'ai pas essayé, parce que j'ai fait de mon mieux. Et ça s'est cassé la gueule. Et l'humanité est ce qu'elle est. Et je suis entourée
d'abrutis.
Ouais. Alors voilà, d'abrutis au grand cœur, certains.
Pas tous.
Ouais. Mais pour moi, ça dit vraiment quelque chose de. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très chrétien dans cette perspective aussi, de dire, bah oui. Si on se limite à ce qu'on voit, il y aurait mille raisons de désespérer. En fait.
Je veux juste...
Mais on persévère.
...repiquer sur un truc, parce que tu as... Je suis très reconnaissant que tu aies fait ça, parce que j'étais en train de me demander si on l'avait perdu en cours de route, tu as remis Dieu dans le game. parce que c'est une interrogation que j'ai depuis le début de notre discussion, où justement, tu nous as proposé de nous réapproprier le péché, on discute là autour, là maintenant... En même temps, classiquement, le péché comme rupture avec Dieu, ça c'est pour moi un peu, si je réfléchis à ce que je reçois comme image, compréhension de la foi chrétienne, je dis « Ah bah oui, le péché c'est ce qui te sépare de Dieu, quoi. C'est ce qui met une distance entre Dieu et toi, c'est ce qui fait que Dieu est peut-être en colère contre toi, ou se détourne de toi, ou que toi tu t'es détourné de Dieu, j'en sais rien. » Il y a quelque chose de cette sorte de rupture dans la relation. Et ça... Alors, est-ce qu'on l'a abandonné en cours de route dans notre discussion, ou ça joue un rôle? C'est une question ouverte hein, que je pose. Alors non, Sophie, tu l'as réintégré. T'as dit.
Ouais, pour moi, ça fait partie du truc, ouais. Clairement. C'est moi, pour moi, je le vois comme équivalent. La brisure du monde, elle est aussi brisure avec Dieu.
Ouais.
Mais pour ça, je fais un peu mon évangélo de service. Non, on s'entend, mais enfin, c'est cette perspective. Moi, ça me gêne pas du tout de dire que le péché est rupture avec Dieu. Ce qui me gêne plus, c'est quand on dit ouais, j'ai vécu une fois un moment de théorie dans un groupe avec l'illustration du péché, c'était « t'as jeté ton chewing-gum par terre ». Et ça devient un acte de moralisation à outrance.
Ah oui, Dieu t'a donné quelque chose de tellement bon et t'en fais de la merde, quoi.
Ouais, c'est ça.
Okay,
et en fait, c'est pas bien de jeter son chewing-gum par terre, alors c'est mal et le péché, c'est ça. Et du coup, bah, ça veut dire que bah, oui, il y a un monde dans lequel tu peux ne pas jeter ton chewing-gum par terre.
Ouais, c'est ça.
Donc au fond, il suffit de respecter la loi et puis d'être parfait. Et
c'est
voilà.
Bon. Ouais.
Et ça, moi, c'est la porte à tout ce qui nous faisait peur dans l'épisode précédent, c'est ce côté moralisation. Et là, moi, je pense qu'on se fourvoie. Et c'est pour ça que j'aime bien ton approche un peu descriptive aussi d'un état de fait de l'humanité. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait discuté avec Micha, qui avait fait...
capsule dans l'épisode précédent.
La capsule qu'on a entendue la dernière fois. C'est un peu ce côté le monde est brisé, moi aussi, mais je contribue à guérir les brisures du monde. Pour moi, un chrétien, ça devrait être un peu ça. Donc tu dois t'occuper avant tout de ta propre brisure, peut-être.
Parce que, voilà. Donc, faut quand même voir la prétention. Hein. Enfin, je sais pas comment on peut l'entendre ça, parce que c'est les mecs brisés qui prétendent avoir quelque chose à réparer.
Moi, j'irais aussi dans une direction peut-être qui répond directement à ta question. C'est qu'au fond, la culpabilité, bien sûr, c'est une brisure. Et puis, c'est en même temps une opportunité immense. Parce qu'en fait, c'est l'épreuve de cette distance avec Dieu aussi. Et c'est l'épreuve de la distance qui génère cet espace d'une relation possible.
Et différencier, du coup. Et Dieu, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre.
Que si je n'étais pas... Voilà, cette plénitude en Dieu, cette fusion en Dieu aurait supprimé, en fait, ce rapport,
cette
justement.
Question même, ouais.
Cet questionnement. Et en fait, je pense que le moment que je préfère, d'ailleurs, dans les cultes, c'est le moment du pardon des péchés. Enfin, de la confession des péchés. Parce que c'est vraiment le moment où dans la méditation priante qu'est le culte, quelque part, c'est vraiment le moment où on va puiser en soi la distance, justement, qui a été opérée par cette brisure, en fait, où on fait l'expérience, quelque part, de cette quête infinie de Dieu, et en fait, où on revisite aussi son existence. Je pense que dans les moments où on dit pardon, on demande pardon pour des choses qui sont très simples parfois aussi. Donc c'est aussi une mise en abîme de la culpabilité dans ce qu'elle a de beau, de juste et de profond aussi. Je sais pas, il y a toutes ces petites blessures dont on est l'occasion et dont on n'a pas forcément conscience. Ou effectivement tous ces moments d'absence où on n'a pas pu être là pour quelqu'un ou même pour Dieu.
Avec de très bonnes raisons, hein.
Avec de très bonnes raisons. Tous ces moments manqués, en fait. C'est pas forcément des moments de souffrance. C'est des moments ratés, en fait, quelque part. J'ai pas été pleinement là pour telle personne alors qu'elle m'avait attendu. Et puis on en prend conscience après coup. Et puis en fait, il y a quelque chose qui est fondamentalement brisé dans le sens où il y aura jamais quelque chose dans la relation, quelle qu'elle soit, de pleinement entier, de pleinement réalisé. Et en fait, c'est cette culpabilité là demande pardon au nom d'une plénitude relationnelle avec Dieu ou avec autrui. Donc enfin, c'est plutôt, enfin tu vois, c'est pas la faute que j'aurais commise, parce qu'à un moment donné j'aurais peut-être pas,
tu vois, j'aurais fait une faute,
j'aurais fait j'ai mal rempli ma déclaration d'impôt, enfin j'en sais rien, ça peut être des choses. Ce serait, là aussi, c'est circonscrit. En fait, une faute, on peut l'identifier, et puis on peut la qualifier et demander pardon pour la faute ou réparer la faute.
Tandis que là, il y a quelque chose d'abyssal.
Il y a quelque chose d'irréparable, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui sera jamais pleinement réalisé, en fait.
Ouais, c'est ça, et c'est l'idée aussi qu'on n'aurait probablement pas pu faire mieux dans les circonstances.
Exact.
Enfin, il y a quelque chose qui nous échappe aussi.
Exactement.
Dans cette chose-là.
Exactement. Et je pense que c'est le moment vraiment, un peu abyssal d'une volonté de rétablir une relation brisée et c'est un appel, en fait, c'est un cri vers Dieu pour demander pardon pleinement, et puis en même temps ça intronise un désir d'une relation pleine et entière.
Voilà, et c'est là où j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais.
Sur Dieu,
non, pas le melon ou la grosse tête ou les gens qui sont brisés, qui, enfin, je sais pas comment tu le formulais.
C'est
rapport
brisé
à ça.
Qui prétendent réparer.
Voilà, prétendent réparer. C'est pas ça l'enjeu, parce que ça procède pas. Ça procède d'un désir, d'un élan, d'une volonté de vie. Et c'est pas au nom de mes blessures ou pour justifier des fautes qu'on aurait commises ou pour... ça, c'est aussi le grand spécialiste qu'on entend souvent dans les phénomènes religieux de gens un peu instables qui prétendent réaliser... guérir leur propre histoire au travers d'engagements de foi ou de spiritualité qui deviennent hyper toxiques et ce genre de trucs-là. L'enjeu, il n'est pas du tout là, à mon avis. Il est plutôt dans une forme de vision moi je parlerais d'élan, d'envie, de reconnaissance, de cet idéal plus grand, de cette possibilité d'une relation réconciliée auquel on croit, en fait, finalement. Tout en sachant qu'elle ne va pas se réaliser ici et maintenant. C'est la difficulté de la nature humaine qui, je dirais, est très paradoxale aussi.
Merci. Je pense qu'on va clore là pour ce qui est de notre temps de parole. On va reparler un peu après, mais je vous propose maintenant qu'on se mette à l'écoute d'un thème qu'on n'a pas du tout, qu'on a un peu stratégiquement évité, qui est celui du mal. Et on va entendre là maintenant, durant les capsules, des personnes autres nous parler du mal.
Quand je pense au mal, présent un peu partout dans le monde, avec des endroits pires que d'autres, ça me questionne beaucoup dans ma foi et dans les actions de Dieu. Dans ce genre de situation, j'aime bien me rattacher à l'image que nous sommes les mains de Dieu, et que c'est à nous de nous engager, à notre échelle, pour contrer le mal.
Voilà, ça c'était Adrien Desponts, que si certains ont suivi la première saison, ils l'auront entendu à l'épisode 4. Adrien, qui est étudiant en sciences de la communication notamment, puis un jeune engagé dans l'église. Et maintenant, nous allons entendre la voix de Marie.
Dans la vie de tous les jours, le mal, pour dire simplement, c'est tout ce qui me fait froid dans le dos. La cruauté, l'horreur. Et puis surtout, toutes les petites actions qui mènent à ça. Qui mène à l'horreur. Et puis je pense à la prière de Jésus, du Notre Père, délivre-nous du mal. Et puis quand je prie délivre-nous du mal, j'essaie de m'associer à la puissance de Jésus. Parce que quand je pense à Jésus qui est mort, descendu aux enfers et ressuscité, je le vois comme Jésus qui a été plongé dans le mal. Et puis qui est plus fort que ça. Alors quand je dis délivre-nous du mal, je pense à tout ce qui fait froid dans le dos et j'essaye d'être proche de la puissance de Jésus.
Voilà, c'était Marie Inaïchen, j'espère que je prononce ton nom juste, Marie, qui est du coup pasteur elle aussi dans l'église réformée du canton de Vaud. Moi, je reste sur deux choses assez contrastées. On n'a pas du tout parlé du sentiment d'horreur, du froid dans le dos. Enfin, ça m'a marqué dans ce retour de Marie qu'il y a dans l'expérience que l'on fait alors du monde, de la vie, quelque chose d'abyssal, mais dans un autre registre. C'est pas les micro-culpabilités, c'est pas le truc du quotidien. C'est quelque chose d'extrême, en fait, qui touche à l'indicible. Et c'est pas un indicible positif du tout. C'est un indicible qui apparemment est là, qui apparaît tout d'un coup, et qui fait peur, quoi. Et ça m'interroge parce que je sais pas à quel point là on parle du mal, et je pense que les expériences de peur, ça fait partie des choses qui nous font trébucher. Je me posais la question s'il y a là un lien, la peur, le péché, s'il y a pas peut-être aussi là quelque chose à penser un peu plus loin. Ou en tout cas, pour moi, dans ce qu'elle dit, une distance, il y a la distance d'avec Dieu, la rupture. Et là, c'est encore un autre type de distance, quoi. C'est presque comme si, le noir ou le registre de l'obscurité que tu évoquais à un moment donné, c'est la distance de l'isolation par rapport à tout, de l'écrasement, du être tellement petit qu'on disparaît face à ça, ou peut-être une peur du rien, quelque chose comme ça. Et puis je trouve que la réponse d'Adrien, c'est le contraste dans l'autre sens, quoi. Il y a des choses qui me questionnent, et je suis renvoyé à ma propre responsabilité, ça on en avait parlé, quand même, c'est des choses qu'on a évoquées, et puis cette image, Dieu n'a que mes mains pour, qui est assez répandue hein, dans les cercles. En tout cas, comment je fréquente, elle est volontiers là aussi. On la critique aussi d'ailleurs cette image parce qu'elle a un côté des fois un peu comme si on pouvait faire nous les choses. Et je trouve intéressant que ces deux capsules du coup sont en contact l'une avec l'autre. Quelque part cette confiance que je peux faire quelque chose et répondre en fait à du mal que j'observe, que je constate. Et de l'autre côté chez Marie quelque chose de de mystérieux en fait et d'indicible par rapport à ce mal là. Voilà pour un peu ma réaction face à ces capsules. Et puis pour le lien par rapport à cet épisode, j'ai l'impression qu'on est peut-être quand même sur autre chose que le péché avec ça, mais qu'on est quand même dans le registre des choses qui font trébucher. C'est-à-dire, est-ce que je peux encore, là où il y a le mal, il y a aussi quelque chose d'une brisure et qui pose la question de si je peux continuer ou pas, en fait. Est-ce que je peux encore continuer face à ça? Et il y a du doute, il y a certainement, il peut y avoir de la déception. Est-ce qu'il y a, c'est comme si, là, je dirais, celui qui pêche, c'est peut-être Dieu face à moi, qui lui, mais il en est où dans le respect de sa loi? Alors moi, je peux faire ce que je veux, apparemment, face à ça, je suis trop petit. Alors soit, je peux, il y a un niveau où je peux encore répondre, mais il y a peut-être un niveau où je peux plus répondre. Est-ce que Dieu a respecté sa propre loi dans cette histoire, si ça a pu arriver?
Moi, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à la réponse de Dieu à Job quand il l'interpelle.
Ouais.
Dieu qui lui dit « Oui, bon, c'est très gentil, mais toi, tu t'occupes de ce que tu peux faire et moi, je m'occupe de ce que je peux faire, moi.
Mmh. »
Et moi, j'imagine assez Dieu en combat, en lutte contre des forces qui nous dépassent. Tu parlais, il y avait quelque chose de l'ordre de l'indicible.
Mmh.
Moi, je suis pas loin de parler de puissance mauvaise. Donc, on est un peu dans ce registre-là quand j'entends parler de ça.
Mmh.
Et des fois, oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a des forces qui nous dépassent, des enjeux où peut-être la responsabilité individuelle ne peut plus suppléer à quelque chose. Ça suffirait pas qu'il y ait que des individus. Enfin,
il faut quelque chose de plus grand, quoi.
Voilà.
Ouais.
Moi, je pense par exemple à certains, ben voilà, certaines situations de guerre ou des choses comme ça où on n'est plus dans des individus devant leurs responsabilités individuelles. Mmh. On est dans quelque chose de plus collectif, où en fait il y a un enjeu. Moi, j'ai parlé des structures, un enjeu structurel, un enjeu systémique peut-être, où il y a un système qui s'emballe. Pour moi, on est dans ce même registre où tout d'un coup il y a dépassement de quelque chose, et on est dans une telle saturation de quelque chose qu'on appellerait le mal, voilà, ça devient un peu autre chose, ça devient quelque chose qui dépasse, que nous, on affirme qu'il ne dépasse pas Dieu.
Ouais,
et je trouve que dans le témoignage de Marie, il y avait tout à fait ça.
Ouais.
Cette idée que Dieu s'est relevé de quelque chose de mauvais qui est de cet ordre du mal ultime, ou de ce vide dont tu parlais. Et en même temps... voilà, quelque chose de l'ordre un peu d'un mystère. Moi, je pense qu'on reste... Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Est-ce que c'était Ricoeur? Il a écrit un petit article sur le mal où il dit que c'est une aporie, une question à laquelle on ne peut pas répondre.
Paul Ricoeur, donc un philosophe français, mais très important pour le protestantisme.
Exactement. Ouais. Et là, alors il pose quelques pistes. Mais ultimement, on ne peut pas y répondre. Et ultimement, on est dans la position de Job, qui crie à l'injustice, qui garde sa fidélité à Dieu, qui essaye d'interpeller Dieu. Il y a tous des dialogues avec ses amis qui lui posent des hypothèses ou des pistes qui ne sont pas toujours très, très reluisantes par rapport à ça. Y compris l'accusation ultime, tu as fauté devant Dieu, donc il t'arrive quelque chose de mauvais. Qui a quand même été complètement déconstruite par Jésus. Donc ça fonctionne pas. Et après, cette question de quelle est la part de Dieu, très bien, mais ma question, c'est pas la part de Dieu, finalement. Ouais. Ça devrait pas être ça, la question, à mon avis. La question, c'est comment tenir debout. Et puis, comment répondre. Et des fois, répondre, c'est juste constater les dégâts et réfléchir à... Comment est-ce qu'on peut faire naître de ce chaos une plante verte, enfin,
continuer à être des mains, quoi.
C'est ça,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et là, on touche à quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que, voilà, des fois, en protestantisme réformé, la question du diable, ou du mal ultime, comme ça, on ne sait pas quoi faire avec ça. Ou alors on dit « Ah, c'est de la mythologie », ou alors on dit « Ah, c'est une façon de se dédouaner de certaines choses ». Oui, très bien, mais il y a aussi peut-être des moyens de...
Il y a une limite à un moment, quoi.
Voilà, c'est une autre manière de décrire ces forces qui des fois, malheureusement, nous dépassent, à mon avis.
Normalement, il ne faudrait pas que je fasse ça, mais je le fais quand même. Ça renvoie à une question dans l'imaginaire chrétien, justement, tout ce qui est de ces images un peu bizarres qu'on trouve dans la tradition chrétienne. Et peut-être qu'on y reviendra un moment ou un autre, mais qui vise justement, enfin, je sais pas, des dragons à sept têtes, des anges, des je sais pas quelles créatures qu'on imagine, la terre qui se fend en deux et qui engloutit tout, enfin, les images de ce registre-là, elles visent à dire quelque chose, en fait. Qui est d'un registre, en fait, qui touche à cet indicible autour duquel on tourne un peu, là. Et dans le rebondissement, et pour moi, il y a quand même un lien avec ce qu'on a vu, entendu tout à l'heure, c'est que face au mal, Dieu, apparemment, à la fois ne renonce pas à sa loi, en fait. Alors, deux choses, c'est-à-dire si on est dans la question du le but, c'est d'apprendre à aimer la loi, apparemment, Dieu, il ne renonce pas à ça. Simplement, elle est ce qu'il fait, enfin, la loi et l'amour, c'est pas contradictoire, apparemment. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que face au mal qui l'assaille et qui l'engloutit, comme l'a dit Marie, il continue à rester sur sa ligne, entre guillemets. Ou en tout cas par rapport aux limites de l'engagement qu'il veut avoir avec ce monde. Donc la limite, c'est l'amour qu'il fixe, quoi. Enfin, ça, on y reviendra peut-être encore une autre fois, mais... Et la pointe, c'est de dire, ben, l'espérance, l'histoire de la résurrection, c'est que cette dynamique du mal n'a pas le dernier mot. Par contre, l'amour persévère.
Oui, c'est ça. Il persévère pas malgré la loi, persévère avec la loi.
Et c'est au nom du respect de la loi qu'il est allé jusqu'au bout de cette mort et à se laisser engloutir, justement.
C'est ça. Et la loi qui peut être tout à fait protectrice dans plein de situations.
Ouais, c'est ça. Pardon, du coup, Dimitri, je te donne la parole.
Oui, moi, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à penser avec le mal comme tel. Je pense que du point de vue de la foi, le mal est exposé quelque part. On le montre.
Ouais.
C'est vraiment l'occasion justement de le voir en face quelque part. Mmh. Ce qui se passe sur la croix signifie qu'il peut émerger à tout moment. J'ai trouvé intéressant ta réflexion aussi sur les structures et sur l'ensemble que des dispositifs que c'était pas que individuel, effectivement, que des personnes ont pu commettre des choses indicibles avec en toute bonne foi dans des systèmes justement qui menaient à la destruction. Donc je pense que la foi dans ce registre, c'est vraiment et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de l'ordre de la délivrance, c'est que ils nous ont fait comprendre quelque chose, déjà de sa possibilité.
La possibilité de quoi?
Ben de sa possibilité, du fait que le mal est toujours possible.
Ah oui, ok. Ouais.
Qu'au fond, ce n'est pas tant une nécessité, aucunement. Je pense que il n'y a pas une complète convergence entre péché et mal, par exemple.
C'est pas tout à fait la même chose.
C'est qu'en fait le mal puisse être exposé pour ce qu'il est, non pas comme une nécessité, non pas comme une naissance, mais comme une potentialité qui est à la fois malheureusement individuelle et qui est aussi bien sûr collective et qui peut être aussi portée de manière très tragique collectivement.
Ou qui serait même cosmique, hein. Enfin, je veux dire,
qui serait même peut-être cosmique, tsunami, effectivement, en tout cas, qui peut être, oui.
Le soleil qui s'éteint. Hein.
Oui, alors là, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intention. Dans le tsunami.
Non, mais c'est abyssal aussi.
C'est abyssal aussi dans le mal subi, puisqu'en fait, il est incompréhensible et absurde, et effectivement, mais le fait que le mal soit pas lié, dans ce cas-là, soit pas lié à une intention, à une personne, lui donne pas de dimension, voilà, le lit pas à une certaine idée de la liberté et des potentiels de la liberté.
Et de la transgression.
De la transgression et de la destruction volontaire, etc. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est plutôt lié à l'absurde. Mais c'est vrai dans la dimension de la foi, c'est d'une part le mal est exposé et en même temps Dieu est au cœur du mal. Pas pour le cautionner, mais pour montrer qu'il fait face avec nous, en fait.
Mais parce qu'on est nous aussi à cet endroit, en fait.
Ouais. Oui, qu'il fait face avec nous et que peut-être nous serons portés avec lui par le mal. Qu'il y a cette possibilité là aussi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas gagné, en fait. On peut être, le Christ nous rejoint dans le mal pour lutter contre le mal, en tout cas pour l'exposer et pour lui résister, pour nous en délivrer, mais ça veut pas dire qu'il nous en protège. Dans le sens où on peut vraiment être emporté avec lui.
Et puis il y a des phrases du Christ qui vont clairement dans ce sens-là. Bien quand sûr. On parle des annonces de persécution, avant que je revienne, vous verrez les violences des guerres, vous serez amenés à...
Ça veut dire qu'en fait, nous sommes, et c'est peut-être une des grandes difficultés, à mon sens, dans cette perspective chrétienne, c'est que oui, c'est extraordinairement difficile, c'est qu'au fond, nous sommes prêts à la persécution. Enfin, nous sommes prêts. Moi, je suis pas prêt, hein. J'en sais rien. Mais l'idée, c'est qu'en fait, nous n'y sommes pas préparés, en fait. Personne n'y est préparé. Mais c'est qu'en fait, nous sommes nous-mêmes exposés au mal. Le mal est exposé, nous y sommes exposés. Dieu nous y rejoint dans la prière, dans tout ce qu'il a à disposition, quelque part.
Dans des gestes de solidarité, de charité.
Mais ne nous protège pas de la possibilité de le subir de plein fouet et d'être nous-mêmes un jour persécutés. Ou même parfois, malencontreusement, de le commettre même. C'est l'humanité qui est en cause, en fait, dans ce rapport aussi, dans cette capacité, dans ce potentiel du mal. Et pas effectivement le fait d'individualité particulièrement cruelle. Je pense qu'effectivement il y en a qui ont peut-être des propensions, mais là cette exposition elle va se faire au plus profond de ce que nous sommes collectivement. Donc voilà, je dirais un Dieu qui nous rejoint au cœur de la souffrance, souffre avec nous, mais dans lequel on peut être vraiment nous-mêmes emportés.
Bon, je pense qu'on on arrive gentiment là au terme de ces trois premiers épisodes qui sont en fait presque un premier échauffement par rapport à notre marche qu'on va entreprendre là sur ces 12 épisodes. Et je pense qu'on va revenir sur un certain nombre de ces enjeux. Une question que moi j'ai en suspens, c'est quand même, on dit que Dieu nous rejoint, mais enfin, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Enfin, maintenant, pour la personne qui est concrètement en train d'être engloutie. Enfin voilà, donc je pense qu'il faudra qu'on se frotte un peu à ces enjeux-là. On va pas le faire maintenant, mais j'espère qu'on va pouvoir y revenir. Sophie, c'est toi qui as la dure tâche maintenant de donner une impulsion à nos auditeurs et auditrices.
Quel élément de mon contexte, de ma vie, de ce que je connais me résiste en moi et autour de moi? Et ce que je retiens de ces discussions, c'est vraiment un encouragement à ne pas fuir ces choses-là. Parce que se questionner sur le péché, sur le mal, c'est vraiment cette invitation qui, à mon avis, fait partie de la foi à la lucidité par rapport au monde. Et comme on l'a mentionné, c'est aussi une ouverture possible pour la relation, pour le pardon, pour quelque chose de profond et de lumineux, d'émerger de tout ça.
Merci Sophie, on part avec cette impulsion et cet encouragement du coup. Et puis moi je vous invite à, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le partager, là où ça vous semble pertinent de le partager, bien sûr l'évaluer sur Spotify, Apple Podcast ou ailleurs. Et puis nous, on arrive ici au terme d'une première session d'enregistrement, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer, que ce soit directement sur la page internet ou par mail aussi, ça c'est possible, vous trouverez mes adresses professionnelles pour l'Église évangélique réformée de Suisse, c'est pas un souci. Puis si on voit qu'on a du retour, peut-être qu'on intégrera aussi vos impulsions à la suite de nos discussions. Et moi je me réjouis de poursuivre avec vous, Sophie, Dimitri, et puis avec vous qui nous écoutez. À bientôt.
Salut.
À bientôt.